France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
De la nuit, élémentaire par Gilbert Maurice Duprez. De la nuit, du désert, de la terre et des villes, territoire des démons. Selon les auteurs anciens, les démons sont une émanation de l'élémentaire. Citation du philosophe Héraclite, pour qui rien n'existe que le mouvement et l'union des contraires, le tout se créant et mourant, les éléments naissant et se perdant, les uns des autres et dans les autres par degrés, la terre va en eau, en feu, en air, tout naît et meurt, meurt et naît, autre que lui-même en même temps et sans fin.
Bonsoir.
Edith Lansac.
Gilbert Maurice Duprez.
C'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent. Il avait cessé. Et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe, avec des racines d'or, épanouies, enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit. Jourdan ne pouvait pas dormir. Il se tournait. Il se retournait. Il fait un clair de toute beauté, se disait-il. Il n'avait jamais vu ça. Le ciel tremblait comme un ciel de métal. On ne savait pas de quoi, puisque tout était immobile, même le plus petit pompon d'osier. Ce n'était pas le vent. C'était tout simplement le ciel qui descendait jusqu'à toucher la terre, racler les plaines, frapper les montagnes et faire sonner les corridors des forêts. Après, il remontait au fond des hauteurs. Jourdan essaya de réveiller sa femme. « Tu dors ?»« Oui. » »« Mais tu réponds ?»« Non. » »« Tu as vu la nuit ?»« Non. » Il fait un clair superbe. Elle resta sans répondre et fit aller un gros soupir, un claquet des lèvres, et puis un mouvement d'épaule, comme une qui se défait d'un fardeau. Tu sais à quoi je pense? Non. J'ai envie d'aller labourer entre les amandiers. Jean Giono.
En compagnie de Hélène de Beauvoir et Robert Amadou.
Écoutez, moi j'éprouve le rêve comme une chose extrêmement importante. Quelquefois, je suis contente de me coucher, je me dis qu'est-ce que je vais rêver. Et ce n'est pas. Non, ce n'est pas parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose dans ma vie, mais ça m'apporte quelque chose. Ça m'ouvre une porte, voilà. Je pense que l'art doit ouvrir la porte sur quelque chose, sur un autre monde. Mais ça ouvre sur quelque chose que nous ne trouvons pas dans le monde qui nous entoure, et le monde serait très pauvre s'il n'y avait pas autre. Du reste, pour la plupart des gens, c'est ce qu'il y a de très triste du reste de notre époque. La vie des gens est une pauvreté affreuse et ne débouche ni sur l'art, ni sur beaucoup de rêves. Je pense que des gens qui vivent dans des HLM entourés de parkings, les enfants par exemple, je pense souvent à eux, je me dis mais qu'est-ce qu'ils doivent avoir dans la tête, des enfants qui n'ont vu que des parkings, des HLM et des terrains vague. Qu'est-ce qu'ils peuvent rêver ?
Le désert est un endroit dur, pénible, et le rêve du bédouin, c'est tout ce qui n'est pas dans le désert. Le paradis tel que l'imagine le bédouin, c'est un paradis où il y a de l'eau, où il y a de la fraîcheur, où il y a de la végétation, et même une végétation d'autant plus luxuriante que le désert est quasiment stérile. Le désert, c'est un lieu d'épreuve. Et si l'on peut faire allusion au christianisme oriental, car en Orient, en Arabie, il y a eu aussi le christianisme, lorsque les moines se retiraient dans le désert, ça n'était pas du tout pour y goûter les joies d'une solitude un petit peu à la manière d'Horace ou à la manière de je ne sais quel sage grec ou romain. Lorsqu'un moine en Orient se retirait tout seul dans le désert, c'était d'abord pour fuir la civilisation. C'était pour fuir la culture et retrouver l'état de nature. Une nature dure, mais je dirais presque d'autant plus naturelle qu'elle était dure. Il y a toute une spiritualité syrienne qui est peu connue, qui rejoint d'ailleurs une certaine spiritualité égyptienne, j'entends monachisme syrien, qui rejoint un certain monachisme égyptien, mais en Syrie c'est particulièrement net. Il s'agit d'abandonner tout ce qui est culturel, parce que tout ce qui est culturel est mauvais, et mauvais en soi. Et on pourrait d'ailleurs en trouver même des justifications dans la Bible, enfin c'est tout de même pas par hasard que la métallurgie, une certaine musique tout à fait viscérale, et les villes elles-mêmes ont été l'invention de Caïn ou de la postérité de Caïn. Pas tout que le métallo qui s'en va dans le bal du samedi soir où la musique a quelque chose de tout à fait inférieur et de quasi bestial et qui vit dans un grand ensemble, c'est le type même du fils de Caïn. Et on peut comprendre qu'effectivement, c'est ermites du désert, lorsqu'ils quittaient la ville, donnaient à ce départ une valeur tout à fait positive. Il s'agissait de répudier ce qui était la culture, ce qui était la civilisation. Et puis il s'agissait ensuite de vivre de la manière la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire de ne pas se raser, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se couper les ongles, de manger les racines et même de les manger à quatre pattes. Et puis, au moment de mourir, de s'en aller dans un lieu tout à fait éloigné, afin qu'on ne puisse pas retrouver votre corps et l'ensevelir, car l'ensevelissement, il l'avait bien compris, est l'un des traits culturels les plus caractéristiques et les plus constants. Et lorsque ces moines, donc, partaient au désert, c'était pour fuir la culture, la civilisation, pour retrouver cet état de nature, et puis c'était pour trouver les démons, pour trouver le diable. Ils ne s'en allaient pas pour trouver le calme, comme je vous le disais, il s'en allait pour lutter avec Satan, en quelque sorte face à face. Satan dans les villes, bien sûr. Satan est présent dans les villes. Il a inspiré la construction des villes pour ces ermites, pour ces hommes que mon ami La Carrière appelle très bien les hommes ivres de Dieu. C'est un bel exemple des hommes ivres de Dieu. Eh bien, les villes ont été certainement inspirées par Satan pour ces ermites. Mais Satan se promène dans les villes d'une manière quelque peu masquée, quelque peu déguisée. Il s'incarne. Alors que dans le désert, il ne s'incarne pas, il se montre tel qu'il est. C'est la tentation de saint Antoine de Flaubert. Et ces moines, qui ne manquaient pas de psychologie, avaient très bien compris que la manifestation de Satan en imagination est beaucoup plus réelle, est beaucoup plus puissante, est beaucoup plus dangereuse que la manifestation de Satan incarné dans de la chair et dans du sang. Aussi, ce désert, c'était l'endroit où les démons erraient. Et le moine qui s'en allait au désert, il fuyait certains satanismes urbains pour trouver le diable face à face et pour lutter avec lui.
On fantasme, moi je fantasme beaucoup. Et c'est une espèce de réinvention du monde.
Dieu faisait le soleil, glanant les rayons dans les clairières vertes, allant chercher du feu oublié jusqu'au fond des mers. De moment en moment, un côté du ciel devenait blond et chaud. L'ombre des troncs traversait les chemins comme elle traverse encore, découpant les oliviers, les routes qui courent autour du mont Ventoux. Une lumière verte tombant des feuillages allait s'allonger sur l'herbe et déjà, à la danse tragique des rayons sur de grands espaces, on devinait que ces grands espaces seraient des déserts et des steppes. Les premières chaleurs vinrent frotter leurs épaules suantes contre celles de Dieu. Au-dessus des rivières, des voiles montaient qui empêchaient le regard de se poser sur les montagnes du lointain. Et bientôt, le soleil lui-même ne se vit plus que comme une masse laiteuse et inconsistante qu'on aurait pu caresser de la main tant sa belle colère lumineuse lui avait passé. Dieu ne trouvait plus son chemin parmi ces vapeurs. Il ruisselait de chaleur. Le brouillard se posait en gouttes sur sa peau. Ce fut d'abord comme une petite main d'enfant qui se frayait un passage entre les herbes, comme un pied de jeune fille qui caresserait l'eau avant le bain. Puis, les premières feuilles s'embrassèrent et un long accord se propagea du sommet des montagnes au fond des mers, arrêté au passage par tous les gouffres de la montagne et repartant léger sur un pied parmi les chemins de forêt. Sautant les fleuves, quelqu'un courut brisant les branches basses, fendant du front les chênes et les cèdres qui se trouvaient sur son passage, emportant des rochers contre sa poitrine et les lançant dans la mer dont les hautes lames arrivaient jusqu'au ciel. Dieu, étendu près d'un chêne, vit passer devant lui plein de flûtes et d'haleines étincelantes le vent. Le vent. On sentait, bien qu'on ne le vit pas, que ses cheveux étaient longs et secs et ses mollets plus puissants que s'ils étaient d'acier. Il avait, on le reconnaissait à son pas, des jambes longues. Une furieuse allégresse l'animait. Il faisait s'envoler les feuilles et lançait les cailloux les uns contre les autres pour les écraser. Son sillage fendait l'eau, bouleversait les haies. Ses pieds ruisselants bousculaient de grands pans de terre au sommet des monts. Il encerclait le monde dans une ronde joyeuse. À coups de poing, il chassa les nuages, les enfouit au fond des mers, et quand le monde eut repris son éclat primitif, quand toutes les choses purent se regarder sans brouillard, il vint s'étendre près de Dieu comme un esclave invisible. Dieu devinait qu'il était là parce qu'autour de lui toutes les herbes dansaient et qu'il sentait son haleine sur son cœur. Pour de longs jours, le monde reprit son immobilité. Seul le vent mettait quelques mouvements dans ses amas de silence clairs ou sombres. La meule du soleil flambait toujours et, à mesure que des nuages se formaient dans le ciel, le vent les poussait du doigt vers les régions de la terre peu hantées par le Créateur. Quelquefois s'étiraient de fins nuages blancs où s'amassaient de lourdes masses grises, mais le vent dansant les entraînait bien vite loin de Dieu. Les ombres étaient toujours immobiles au pied des arbres, et c'est alors, parce que le côté de la forêt qui ne voyait jamais le soleil était humide et malade, que Dieu permit au soleil de se promener dans l'espace pour caresser toutes les faces des choses. Le bûcher, à sa volonté, se mit en marche avec des grincements de feu. Le vent avait révélé le bruit et le son au monde endormi. Et tout parlait en cet instant et chantait aussi. Parmi le ruissellement des feuillages agités et le murmure des rivières qui s'élançaient dans les vallées à écho, l'on entendait quelquefois pousser droit dans le ciel une voix mâle et sonore. C'était Dieu qui jetait au soleil un chant d'allégresse. Il se promenait d'un bout à l'autre du ciel, le soleil, et les vallées ombreuses recevaient son baiser de feu. Mais ce jeu commençait à fatiguer le Créateur. Il oubliait toujours quelques brins de lumière sur le sable du ciel, et alors il permit que le soleil décrivît dans le bleu une route, toujours la même, et qu'il alla prendre des forces pour quelques instants au sein de la terre qui contenait les gemmes lumineuses et les métaux étincelants dans ses grasses entrailles. Et ainsi furent créés le jour et la nuit. Je vois le soleil descendre lentement comme retenu par un élastique au-dessus de la Camargue. je ne peux m'empêcher de songer au tragique de ce premier soir sur la terre. Peu à peu, selon la volonté du maître, comme un char fatigué qui regagne de grands portails, le soleil s'acheminait vers les forêts qui couvrent l'autre versant du monde.
Nous sommes dans un monde qui est beaucoup plus le monde du en même temps que le monde du ou bien. C'est-à-dire qu'il y a une notion essentielle que l'Occident a oublié. Et là, je parle de l'Occident géographique en même temps que de l'Occident comme mentalité. Et que l'Orient, dans la mesure où il n'est pas contaminé par l'Occident, mentalité, a conservé. C'est l'idée de ce que certaines mythologies appellent les deux mains de Dieu. C'est l'idée de ce qu'on pourrait appeler une ambiguïté et que pour ma part, j'aimerais mieux appeler une polarité. C'est-à-dire que l'un ne va jamais sans l'autre, ni l'autre sans l'un. C'est-à-dire que toute manifestation est duelle. C'est-à-dire qu'il y a une unité profonde et une manifestation duelle. Et que l'unité ne peut pas se manifester, si ce n'est de manière ambiguë, mais qu'il n'y a pas d'ambiguïté qui ne finisse par se résoudre en son fond, en sa racine, comme une unité. L'Orient, bien sûr, c'est la naissance. L'Orient, c'est la lumière hissante des ténèbres. L'Orient, qu'une symbolique chrétienne attribue comme symbole à Jésus-Christ, c'est le symbole aussi de l'homme qui renaît en s'identifiant à Jésus-Christ ou que Jésus-Christ représente comme nouvel homme. Et en ce sens, il y a un rapport étroit entre l'Orient et la nuit. Car nous parlions tout à l'heure des conditions très pénibles qui sont celles de la vie dans le désert. Seulement dans le désert comme partout ailleurs, mais là on le sent particulièrement, la journée comprend le jour et la journée comprend la nuit. La journée est extrêmement pénible, la nuit l'est beaucoup moins. La journée, c'est le règne du soleil. Mais d'un soleil qui n'est pas fertilisant, d'un soleil qui est dévorant, d'un soleil qui est stérilisant, qui est, j'allais dire castrateur, mais je devrais dire castratrice, car le soleil, dans les langues, dans la mythologie sémitique, est féminin. La lune, au contraire, est masculine. Elle est masculine, et c'est elle qui féconde, et c'est elle qui permet la manifestation d'une réalité imaginaire, d'une réalité vivante, alors que la journée, c'est au contraire le règne de la mort. Dans le désert aussi, il y a la mort et il y a la vie. Et la lune, qui est fertilisante, fécondante, elle est masculine, alors que le soleil, qui détruit, il est en même temps la mère castratrice et il est féminin. C'est là un exemple, entre beaucoup d'autres, précisément de cette polarité, de cette manifestation de toute réalité sous une double forme.
La maison que j'habite est hantée par le bruit de l'eau coulant goutte à goutte. toujours, nuit et jour, été comme hiver, il y a quelque part quelque chose qui s'égoutte. Durant de longs mois, une citerne sans repos a entretenu dans son sein de fer un long soliloque qui sonnait le creux. Elle est silencieuse à présent. Mais un égouttement nouveau et plus formidable a pris naissance. Du fait même de la maison, une petite gouttière, le trop-plein sans doute de quelque récipient inconnu situé sous la toiture, laisse tomber une succession de gouttes qui est presque un flot continu. Il tombe, ce quasi-ruisseau, d'une hauteur à pic de 12 à 15 mètres sur les pierres de la descente de cave pour s'écouler peu à peu et ignominieusement de là dans quelque égout approprié. Les cataractes sonnent leurs trompettes du haut de leurs apics. Mais mes cascades plus menues font une musique plus subtile, je serais presque tenté de dire plus moderne. La nuit, quand je demeure éveillé, j'en écoute les cadences avec un plaisir mêlé d'irritation. Le chant musical d'un robinet qui s'égoutte est d'environ une demi-octave. Mais dans les limites de cette carte augmentée, les gouttes peuvent jouer les mélodies les plus étonnantes et les plus variées. Vous les entendrez grimper laborieusement de minces degrés sonores, simplement pour redescendre d'un seul bond tout en bas de l'échelle. Plus fréquemment, elles errent sans raison, de ci de là, en intervalles variables, familiers ou d'une bizarrerie déconcertante. Et en même temps que la hauteur variable, la durée varie aussi, bien que dans des limites plus étroites. Car les lois de l'hydrostatique, ou de toute autre science, quelle qu'elle soit, qui revendique la haute main sur les gouttes, n'accordent guère de latitude aux égouttements pour s'arrêter ou pour accélérer la cadence de leur chute. C'est de la musique d'une espèce bizarre. On l'écoute, tandis qu'on est étendu dans son lit et que l'on s'enfonce peu à peu dans le sommeil avec une émotion curieuse et inquiète. Goutte, gotte, goutte, gâte, guette, goutte. C'est ainsi qu'elle se poursuit, cette mélodie aquatique à jamais et sans fin, sans conclusion, incohérente, informe. Elle est toujours sur le point de prendre le tournant qui lui donnera signification et forme. De temps à autre, on entend une phrase complète de mélodie bien refermée. Et puis goutte, gotte, goguite. Gégoutte. Voilà la vieille incohérence qui reprend. Mais si pourtant il y avait là-dedans quelque signification. C'est là ce qui inquiète mon esprit ensommeillé tandis que j'écoute la nuit.
Je ne voyais pas la chance que j'avais. Le soleil dans les yeux, et tu m'as quitté en te sachant le fort, et me voilà seule, je reconnais mes torts, et tu m'as. Laisse-moi.
Peut-être pour ceux qui ont des oreilles pour entendre cet égouttement sans fin, est-il aussi chargé de pensées et d'émotions aussi significatives qu'une pièce de Bach ? Gut, got, gogot, ge, git. Il suffirait de si peu de choses pour transformer l'incohérence en quelque chose ayant un sens. La musique des gouttes est le symbole et le type de tout l'univers. Elle est à jamais, en quelque sorte, asymptotique à ce qui a un sens, infiniment près d'une signification, mais elle ne les touche jamais. Jamais, à moins que l'esprit humain ne vienne la tirer de force pour lui faire franchir l'espace qui l'en sépare. Si j'étais capable de comprendre cette musique errante, si je savais y découvrir une suite, si je pouvais la forcer à quelques conclusions, de façon que le diapason se referme sur quelque chose de défini, alors je le sens, je comprendrai toute l'incompréhensible machine, depuis les lacunes entre les étoiles jusqu'à la politique des alliés. Et de plus en plus gagné par le sommeil, j'écoute la mélodie sans fin, le soliloque creux de la citerne, le claquement vif et métallique des gouttes qui tombent du toit sur les pierres tout en bas. Et assurément, je commence à découvrir un sens. Assurément, j'aperçois une trace de pensée. Assurément, les phrases se succèdent avec art, amenant inévitablement quelques conclusions prodigieuses. Je la tiens presque, presque, presque. Et puis je le suppose. Je m'endors nettement. Car la première chose dont j'ai alors conscience, c'est que le soleil inonde la chambre. C'est le matin. Et l'eau coule toujours, goutte à goutte, d'une façon aussi irritante et persistante que jamais. Quelquefois, l'incohérence de la musique des gouttes dépasse les limites du supportable. L'auditeur affirme avec insistance que l'asymptote, d'une façon ou d'une autre, touchera la ligne de signification. Il oblige les gouttes à dire quelque chose. Il exige d'elles qu'elles jouent, par exemple, God Save the King, ou l'hymne à la joie de la 9e symphonie, ou Voi che sapete. Les gouttes obéissent en renaclant. Elles jouent ce que l'on désire, mais d'une façon encore plus inepte que l'enfant au piano. Pourtant, elle le joue, tant bien que mal. Mais c'est là une méthode extrêmement dangereuse d'exorciser le fantôme obsédant dont la voix est le bruit de l'eau qui s'égoutte. Car une fois qu'on a donné aux gouttes quelque chose à chanter ou à dire, elles continuent à le chanter et à le dire à tout jamais. Le sommeil devient impossible. Et après la 200 ou 300e répétition de la Madelon, ou même d'un air des Noces de Figaro, l'esprit commence à chanceler du côté de la folie. On peut, avec un peu de persévérance, obliger les gouttes, les pendules qui font tic-tac, les machines, tout ce qui a des pulsations fait un cliquetis, un bourdonnement ou un martèlement à dire quelque chose. Dans mon enfance, je m'en souviens, on me disait que les trains répétaient de Paris à Calais, pédalons, pédaler et d'Acapo jusqu'à l'infini. Ils peuvent également répéter, si on le désire, cette information utile en cas de vacarme tirer l'alarme. Mais il est fort difficile de leur persuader d'ajouter le corollaire menaçant « Tout appel non motivé expose les voyageurs à des poursuites judiciaires ». Pourtant, grâce à un dressage soigné, j'ai réussi à apprendre à un train à répéter même cette phrase arythmique. La littérature dadaïste me rappelle toujours un peu mes gouttes d'eau qui tombent. Confrontée avec elle, je ressens la même émotion gênante que celle qui est créée chez moi par la musique inconséquente de l'eau. Et si, après tout, cette suite apparemment accidentelle de mots renfermait le secret de l'art et de la vie et de l'univers, c'est possible, qui sait ? Et me voici, moi, jeté au dehors, dans le froid de l'incompréhension totale.
En présence d'une hiérarchie certainement, mais aussi en présence d'emboîtage constant. Et la nuit est elle-même duelle. La nuit enfante en même temps des rêves et des cauchemars. Elle enfante en même temps le sommeil et la mort. C'est la théologie grecque la plus connue, enfin celle d'Hésiode, qui fait très significativement de la nuit, la fille du chaos et la mère de la terre et du ciel. On pourrait d'ailleurs ajouter que selon Hésiode aussi, c'est le temps, fils d'Ouranos, qui provoquera la rupture entre la terre et le ciel. Et d'ailleurs, ce temps n'est lui-même qu'une des illusions que provoque la croyance en cette dualité. Celui qui comprend que cette dualité n'est que l'expression d'une unité, comprend que le temps est lui-même illusoire, comprend que l'espace est lui-même illusoire. Et ce n'est pas par hasard que les névroses les plus répandues, peut-être, procèdent d'une certaine peur de l'espace et d'une certaine peur du temps. C'est parce que l'homme a perdu, comme disait Jung, le sens de l'intrication universelle, qu'il n'a pas vu que tout était lié et que tout ce qui se manifestait sous une forme duelle n'était que l'expression d'une certaine unité. Alors lorsque la nuit, qui d'ailleurs d'après Hésiode aussi, enfin les deux enfants de la nuit, c'est le sommeil et la mort, il y a un petit coffret célèbre où on représente la nuit qui est sur ses bras, le sommeil et la mort. Alors la nuit enfante des monstres. Mais ces monstres qui sont très ambigus aussi. Pensez à ces images japonaises ou chinoises, où les êtres bons sont représentés sous des formes laides, sous des formes effrayantes, alors que les êtres méchants apparaissent comme des êtres séduisants. Ça rejoint d'ailleurs toute une certaine iconographie du diable, parce que les êtres séduisants sont des êtres qui sont bien capables de tromper. Il y a là donc aussi une ambiguïté. La nuit, qui est essentielle dans le désert, la nuit avec les étoiles, il ne s'agit pas de reprendre toutes les descriptions. C'est vrai que les nuits d'Arabie, elles sont belles comme la mer de glace était grande, pour M. Perrichon, bien sûr, ça va de soi. Mais la nuit représente aussi, symboliquement, et favorise d'ailleurs l'exercice de toute la face nocturne de la condition humaine. Il y a un aspect lunaire comme un aspect solaire dans la condition humaine. Le danger et c'est un danger auquel l'Occident succombe très fréquemment, c'est de refuser d'intégrer cette part lunaire, d'intégrer cette part de nuit, d'intégrer cette part d'ombre. Et cela signifie deux choses. Parce que la nuit, parce que l'ombre est ambiguë, elle aussi. C'est André Breton, je crois, qui, dans Arcane 17, disait qu'il y avait, et il rejoignait là un symbolisme très traditionnel et très universel, qu'il y avait la fausse nuit et la vraie nuit. La fausse nuit, c'est celle de l'ignorance, de la bêtise. Alors que la vraie nuit, c'est celle du non-savoir. C'est celle de la docte ignorance de celui qui a appris à voir dans les ténèbres. La vraie nuit, en ce sens, c'est en quelque sorte la lumière. Alors que la fausse nuit, c'est véritablement l'ombre. Et, bien sûr, cette idée de la vraie nuit rejoint tout un symbolisme, le symbolisme du souterrain, le symbolisme du labyrinthe dont il faut gagner le centre, le symbolisme de la mine qui pendant tant de siècles a été considérée comme le siège d'une activité biologique, car les métaux eux-mêmes étaient vivants. La nuit, la vraie nuit, en ce sens, la nuit de la docte ignorance, c'est le grouillement, c'est un certain chaos, c'est la mer, écrivez comme vous voulez, la mer primitive, primordiale, d'où tout va naître. C'est le lieu d'où proviendra le nouvel être, celui qui arrivera au centre du labyrinthe.
Soleil, large, comme un pied d'homme.
Le soleil se renouvelle chaque jour. Il ne cesse pas d'être éternellement nouveau.
Le soleil est nouveau chaque jour, car il participe du pouvoir dionysien. Si toute chose devenait fumée, nous connaîtrions par les narines.
Ceux qui descendent dans les mêmes fleuves se baignent dans le courant d'une eau toujours nouvelle, et les âmes aussi s'exhalent de l'humide. Ce monde, pour tous uniformément constitué, n'a été créé par aucun dieu ni par aucun homme. Mais il a toujours existé. Il existe et existera toujours. Feu éternellement vivant, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure.
La mer est la première métamorphose du feu. Et de la mer, une moitié devient terre, l'autre nuée ardente.
Héraclite veut dire que, par sa puissance, le feu, obéissant à la loi cosmique et divine, transforme toute chose à travers l'air en une substance humide qui est le germe de l'univers et qu'il appelle la mer. D'elle, à nouveau, naissent la terre, le ciel et ce qu'ils contiennent. Il explique clairement aussi comment le monde est ramené en arrière et consumé par le feu.
L'identité de la lutte et de Zeus. c'est la mort pour les âmes de devenir eau. C'est la mort pour l'eau de devenir terre. De la terre vient l'eau, et de l'eau provient l'âme.
Il faut éteindre la démesure plus qu'un incendie.
Ce qui s'oppose en se composant éternellement se pose.
La foudre pilote l'univers.
Je l'appelle la foudre. Satiété et disette. Satiété, c'est le monde créé selon sa loi. Disette, le feu qui le détruit.
Le feu, progressant, jugera et emportera tout.
Le feu vient à la vie par la mort de la terre, et l'air par celle du feu. L'eau vit par la mort de l'air, et la terre par celle de l'eau. Mort du feu, naissance de l'air. Mort de l'air, naissance de l'eau. La mort de la terre provoque la naissance de l'eau. La mort de l'eau fait vivre l'air. La mort de l'air fait vivre le feu, et inversement.
En se transformant, le feu se délasse. C'est fatigue et souffrance de servir des maîtres qui ne changent pas. Le feu pilote tout à travers le tout, sans jamais laisser l'univers immobile.
Le tout est transmuté en feu, et le feu en toute chose, comme les marchandises sont échangées contre l'or, et l'or contre les marchandises.
Le soleil n'outrepassera pas ses bornes, sinon les Érinies, sentinelles de justice, sauront le découvrir.
Si le soleil n'existait pas, il ferait nuit.
Le soleil, maître et gardien des révolutions périodiques, détermine et dirige, suscite et découvre les métamorphoses.
Le froid s'échauffe, la chaleur se glace, l'humidité se dessèche, l'aridité se mouille.
La culture est un autre soleil pour les hommes instruits. En référence, Aldous Huxley, En marge, aux éditions Universelles, Héraclite, collection Idées chez Gallimard, André de Richaud, La création du monde, édition Robert Morel, et Nicoletta.
Gilbert Maurice Duprez.
Edith Lansac.
Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 8 mai 1975.